Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
22e section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Cet amateur était un bon gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais. Juge au tribunal de commerce, père de 4 enfants, marié pour la seconde fois à une épouse légitime, riche de 80 000 livres de rente, mais âgé de 56 ans, ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête l'air papelard d'un homme qui jouissait de son reste et qui ne voulait pas quitter la vie sans son compte de bonne joie, après avoir avalé les 1001 couleuvres du commerce. Il y avait sur ce front couleur beurre frais, sur ses joues monastiques et fleuries, tout l'épanouissement d'une jubilation superlative. Camusot était sans sa femme et entendait applaudir Coralie à tout rompre. Coralie était toutes les vanités réunies de ce riche bourgeois. Il tranchait chez elle du grand seigneur d'autrefois. Il se croyait là de moitié dans son succès, et il le croyait d'autant mieux qu'il l'avait soldé. Cette conduite était sanctionnée par la présence du beau-père de Camusot, un petit vieux, à cheveux poudrés, aux yeux égrillards et très digne. Les répugnances de Lucien se réveillèrent. Il se souvint de l'amour pur, exalté, qu'il avait ressenti pendant un an pour madame de Bargeton. Aussitôt, l'amour des poètes déplia ses ailes blanches. 1000 souvenirs environnèrent de leurs horizons bleuâtres le grand homme d'Angoulême qui retomba dans la rêverie. La toile se leva, Coralie et Florine étaient en scène. « Ma chère, il pense à toi comme au grand Turc, » dit Florine à voix basse pendant que Coralie débitait une réplique. Lucien ne put s'empêcher de rire et regarda Coralie. Cette femme, une des plus charmantes et des plus délicieuses actrices de Paris, la rivale de Madame Perrin et de Mademoiselle Fleurier, auxquelles elle ressemblait et dont le sort devait être le sien, était le type des filles qui exercent à volonté la fascination sur les hommes. Coralie montrait une sublime figure hébraïque. Ce long visage ovale, d'un ton d'ivoire blond, à bouche rouge comme une grenade, à menton fin comme le bord d'une coupe. Sous des paupières chaudes et comme brûlées par une prunelle de jais, sous des cils recourbés, on devinait un regard languissant où scintillaient, à propos, les ardeurs du désert. Ses yeux étaient entourés d'un cercle olivâtre et surmontés de sourcils arqués et fournis. Sur un front brun, couronné de 2 bandeaux d'ébène où brillaient alors les lumières comme sur du vernis, siégeait une magnificence de pensée qui aurait pu faire croire à du génie. Mais Coralie, semblable à beaucoup d'actrices, était sans esprit malgré son nez ironique et fin, sans instruction malgré son expérience. Elle n'avait que l'esprit des sens et la bonté des femmes amoureuses. Pouvait-on d'ailleurs s'occuper du moral quand elle éblouissait le regard avec ses bras ronds et polis, ses doigts tournés en fuseau, ses épaules dorées avec la gorge chantée par le cantique des cantiques, avec un col mobile et recourbé, avec des jambes d'une élégance adorable et chaussées en soie rouge? Ces beautés d'une poésie vraiment orientale étaient encore mises en relief par le costume espagnol convenu dans nos théâtres. Coralie faisait la joie de la salle où tous les yeux serraient sa taille bien prise dans sa basquine et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait des torsions lascives à la jupe. Il y eut un moment où Lucien, en voyant cette créature jouant pour lui seul, se souciant de Camusot autant que le gamin du paradis se soucie de la pelure d'une pomme, mit l'amour sensuel au-dessus de l'amour pur, la jouissance au-dessus du désir, et le démon de la luxure lui souffla d'atroces pensées. J'ignore tout de l'amour qui se roule dans la bonne chair, dans le vin, dans les joies de la matière, se dit-il. J'ai plus encore vécu par la pensée que par le fait. Un homme qui veut tout peindre doit tout connaître. Voici mon premier souper fastueux, ma première orgie avec un monde étrange. Pourquoi ne goûterais-je pas une fois ces délices si célèbres, où se ruaient les grands seigneurs du dernier siècle en vivant avec des impurs? Quand ce ne serait que pour les transporter dans les belles régions de l'amour vrai, ne faut-il pas apprendre les joies, les perfections, les transports, les ressources, les finesses de l'amour des courtisanes et des actrices? N'est-ce pas, après tout, la poésie des sens? Il y a 2 mois, ces femmes me semblaient des divinités gardées par des dragons inabordables. En voilà une dont la beauté surpasse celle de Florine que j'enviais à Lousteau. Pourquoi ne pas profiter de sa fantaisie quand les plus grands seigneurs achètent de leurs plus riches trésors une nuit à ces femmes-là? Les ambassadeurs, quand ils mettent le pied dans ces gouffres, ne se soucient ni de la veille ni du lendemain. Je serais un niais d'avoir plus de délicatesse que les princes, surtout quand je n'aime encore personne. Lucien ne pensait plus à Camusot. Après avoir manifesté à Lousteau le plus profond dégoût pour le plus odieux partage, il tombait dans cette fosse, il nageait dans un désir, entraîné par le jésuitisme de la passion. « Coralie est folle de vous, lui dit Lousteau en entrant. Votre beauté, digne des plus illustres marbres de la Grèce, fait un ravage inouï dans les coulisses. Vous êtes heureux, mon cher. À 18 ans, Coralie pourra dans quelques jours avoir 30 000 francs par an pour sa beauté. Elle est encore très sage. Vendue par sa mère, il y a 3 ans, 60 000 francs, elle n'a encore eu que des chagrins et cherche le bonheur. Elle est entrée au théâtre par désespoir. Elle avait en horreur de Marsay, son premier acquéreur, et, au sortir de la galère, car elle a été bientôt lâchée par le roi de nos dandies, elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n'aime guère. Mais il est comme un père pour elle. Elle le souffre et se laisse aimer. Elle a refusé déjà les plus riches propositions, et se tient à Camusot qui ne la tourmente pas. Vous êtes donc son premier amour. Oh! Elle a reçu comme un coup de pistolet dans le cœur en vous voyant, et Florine est allée là raisonner dans sa loge, où elle pleure de votre froideur. La pièce va tomber. Coralie ne sait plus son rôle, et adieu l'engagement au gymnase que Camusot lui préparait. « Bah, pauvre fille, dit Lucien, dont toutes les vanités furent caressées par ces paroles, et qui se sentit le cœur gonflé d'amour-propre. Il m'arrive, mon cher, dans une soirée, plus d'événements que dans les 18 premières années de ma vie. » Et Lucien raconta ses amours avec madame de Bargeton et sa haine contre le baron Châtelet. « Tiens, le journal manque de bêtes noires. Nous allons l'empoigner. Ce baron est un beau de l'Empire. Il est ministériel. Il nous va. Je l'ai vu souvent à l'opéra. J'aperçois d'ici votre grande dame. Elle est souvent dans la loge de la marquise d'Espard. Le baron fait la cour à votre ex-maîtresse, un os de sèche. Attendez, Finot vient de m'envoyer un exprès me dire que le journal est sans copie, un tour que lui joue un de nos rédacteurs, un drôle, le petit Hector Merlin à qui l'on a retranché ses blancs. Finot, au désespoir, broche un article contre les danseuses et l'opéra. Eh bien, mon cher, faites l'article sur cette pièce, écoutez-la, pensez-y. Moi, je vais aller dans le cabinet du directeur méditer 3 colonnes sur votre homme et sur votre belle dédaigneuse qui ne seront pas à la noce demain. Voilà donc où et comment se fait le journal, dit Lucien. Toujours comme ça, répondit Lousteau. Depuis 10 mois que j'y suis, le journal est toujours sans copie à 8 heures du soir. On nomme, en argot typographique, copie, le manuscrit à composer, sans doute parce que les auteurs sont censés n'envoyer que la copie de leur œuvre. Peut-être aussi est-ce une ironique traduction du mot latin copia, abondance, car la copie manque toujours. Le grand projet qui ne se réalisera jamais est d'avoir quelques numéros d'avance, reprit Lousteau. Voilà 10 heures et il n'y a pas une ligne. Je vais dire à Vernou et à Nathan, pour finir brillamment le numéro, de nous prêter une vingtaine d'épigrammes sur les députés, sur le chancelier Crusoé, sur les ministres et sur nos amis au besoin. Dans ce cas-là, on massacrerait son père. On est comme un corsaire qui charge ses canons avec les écus de sa prise pour ne pas mourir. Soyez spirituel dans votre article et vous aurez fait un grand pas dans l'esprit de Finot. Il est reconnaissant par calcul. C'est la meilleure et la plus solide des reconnaissances, après toutefois celle du Mont-de-Piété. « Quels hommes sont donc les journalistes ? » s'écria Lucien. « Comment ? Il faut se mettre à une table et avoir de l'esprit. Absolument, comme on allume un quinquet, jusqu'à ce que l'huile manque. » Au moment où Lousteau ouvrait la porte de la loge, le directeur et Dubruel entrèrent. « Monsieur, dit l'auteur de la pièce, laissez-moi dire de votre part à Coralie que vous vous en irez avec elle après souper, ou ma pièce va tomber. La pauvre fille ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Elle va pleurer quand il faudra rire, et rira quand il faudra pleurer. On a déjà sifflé. Vous pouvez encore sauver la pièce. Ce n'est pourtant pas un malheur que le plaisir qui vous attend. Monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des rivaux, dit Lucien. Ne lui dites pas cela, s'écria le directeur en regardant l'auteur. Coralie est fille à jeter Camusot par la fenêtre, à le mettre à la porte, et se ruinerait très bien. Ce digne propriétaire du Cocon d'Or donne à Coralie 2 000 francs par mois, paye tous ses costumes et ses claqueurs. Comme votre promesse ne m'engage à rien, sauvez votre pièce, dit sultanesquement Lucien. Mais n'ayez pas l'air de la rebuter, cette charmante fille. Dit le suppliant Dubruel. Allons, il faut que j'écrive l'article sur votre pièce et que je sourie à votre jeune première. Soit, s'écria le poète. L'auteur disparut après avoir fait un signe à Coralie qui joua dès lors merveilleusement et fit réussir la pièce. Bouffet qui remplissait le rôle d'un vieil alcade dans lequel il révéla pour la première fois son talent pour se grimer en vieillard, vint au milieu d'un tonnerre d'applaudissements dire « Messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de représenter est de messieurs Raoul et Dubruel. » « Tiens, Nathan est de la pièce ?» dit Lousteau. « Je ne m'étonne plus de l'intérêt qu'il y prend, ni de sa présence. » « Coralie, Coralie !» s'écria le parterre soulevé. De la loge où étaient les deux négociants, il partit une voix de tonnerre qui cria « Et Florine ?» Florine et Coralie, répétèrent alors quelques voix. Le rideau se releva. Bouffet reparut avec les deux actrices à qui Matifat et Camusot jetèrent chacun une couronne. Coralie ramassa la sienne et la tendit à Lucien. Pour Lucien, ces 2 heures passées au théâtre furent comme un rêve. Les coulisses, malgré leurs horreurs, avaient commencé l'œuvre de cette fascination. Le poète, encore innocent, y avait respiré le vent du désordre et l'air de la volupté. Dans ces sales couloirs encombrés de machines et où fument des quinquets huileux, il règne comme une peste qui dévore l'âme. La vie n'y est plus ni sainte ni réelle. On y rit de toutes les choses sérieuses et les choses impossibles paraissent vraies. Ce fut comme un narcotique pour Lucien, et Coralie acheva de le plonger dans une ivresse joyeuse. Le lustre s'éteignit. Il n'y avait plus alors dans la salle que des ouvreuses qui faisaient un singulier bruit en ôtant les petits bancs et fermant les loges. La rampe, soufflée comme une seule chandelle, répandit une odeur infecte. Le rideau se leva. Une lanterne descendit du cintre. Les pompiers commencèrent leur ronde avec les garçons de service. À la féerie de la Seine, au spectacle des loges pleines de jolies femmes, aux étourdissantes lumières, À la splendide magie des décorations et des costumes neufs succédaient le froid, l'horreur, l'obscurité, le vide. Ce fut hideux. « Eh bien, viens-tu, mon petit ?» dit Lousteau sur le théâtre. Lucien était dans une surprise indicible. « Saute de la loge ici !» lui cria le journaliste. D'un bond, Lucien se trouva sur la scène, à peine reconnut-il Florine et Coralie déshabillées, enveloppées dans leurs manteaux et dans des douillettes communes. La tête couverte de chapeaux à voiles noirs, semblable enfin à des papillotes rentrées dans leurs larves. « Me ferez-vous l'honneur de me donner le bras ?» lui dit Coralie en tremblant. « Volontiers, » dit Lucien, qui sentit le cœur de l'actrice palpitant sur le sien comme celui d'un oiseau quand il l'eut prise. L'actrice, en se serrant contre le poète, eut la volupté d'une chatte qui se frotte à la jambe de son maître avec une moelleuse ardeur. « Nous allons donc souper ensemble ?» lui dit-elle. Tous quatre sortirent et trouvèrent deux fiacres à la porte des acteurs qui donnaient sur la rue des Fosses du Temple. Coralie fit monter Lucien dans la voiture où étaient déjà Camusot et son beau-père, le bonhomme Cardot. Elle offrit la quatrième place à Dubruel. Le directeur partit avec Florine, Matifat et Lousteau. « Ces fiacres sont infâmes, » dit Coralie. « Pourquoi n'avez-vous pas un équipage ?» répliqua Dubruel. « Pourquoi ? » s'écria-t-elle avec humeur. « Je ne veux pas le dire devant Monsieur Cardot, qui sans doute a formé son gendre. Croiriez-vous que, petit et vieux comme il est, Monsieur Cardot ne donne que 300 francs par mois à Florentine, juste de quoi payer son loyer, sa pâtée et ses socs ?» Le vieux marquis de Rochegude, qui a 600 000 livres de rente, m'offre un coupé depuis 2 mois, mais je suis une artiste et non une fille. « Vous aurez une voiture après-demain, mademoiselle, » dit gravement Camusot, « mais vous ne me l'aviez jamais demandé. »« Est-ce que ça se demande ? Comment, quand on aime une femme, la laisse-t-on patauger dans la crotte et risquer de se casser les jambes en allant à pied ? Il n'y a que ces chevaliers de l'Aune pour aimer la boue au bas d'une robe. » En disant ces paroles avec une aigreur qui brisa le cœur de Camusot, Coralie trouvait la jambe de Lucien et la pressait entre les siennes. Elle lui prit la main et la lui serra. Elle se tut alors et parut concentrée dans une de ces jouissances infinies qui récompensent ces pauvres créatures de tous leurs chagrins passés, de leurs malheurs, et qui développent dans leur âme une poésie inconnue aux autres femmes à qui ces violents contrastes manquent, heureusement. « Vous avez fini par jouer aussi bien que Mademoiselle Mars, » dit Dubruel à Coralie. « Oui, » dit Camusot, « Mademoiselle a eu quelque chose au commencement qui l'a chiffonné, mais dès le milieu du second acte, elle a été délirante. Elle est pour la moitié dans votre succès. »« Et moi pour la moitié dans le sien, » dit Dubruel. « Vous vous battez de la chape de l'évêque, » dit-elle d'une voix altérée. L'actrice profita d'un moment d'obscurité pour porter à ses lèvres la main de Lucien et la baisa en la mouillant de pleurs. Lucien fut alors ému jusque dans la moelle de ses os. L'humilité de la courtisane amoureuse comporte des magnificences morales qui en remontrent aux anges. « Monsieur va faire l'article, » dit Dubruel en parlant à Lucien. « Il peut écrire un charmant paragraphe sur notre chère Coralie. »« Oh, rendez-nous ce petit service !» dit Camusot avec la voix d'un homme à genoux devant Lucien. « Vous trouverez en moi un serviteur bien disposé pour vous, en tout temps. »« Mais laissez donc à monsieur son indépendance, » cria l'actrice enragée. « Il écrira ce qu'il voudra. Achetez-moi des voitures et non pas des éloges. »« Vous les aurez à très bon marché, » répondit poliment Lucien. « Je n'ai jamais rien écrit dans les journaux. Je ne suis pas au fait de leurs mœurs. Vous aurez la virginité de ma plume. »« Ce sera drôle, » dit Dubruel. « Nous voilà rue de Bondy, » dit le petit père Cardot que la sortie de Coralie avait atterré. « Si j'ai les prémices de ta plume, tu auras celle de mon cœur, » dit Coralie pendant le rapide instant où elle resta seule avec Lucien dans la voiture. Coralie alla rejoindre Florine dans sa chambre à coucher pour y prendre la toilette qu'elle y avait envoyée. Lucien ne connaissait pas le luxe que déploient chez les actrices ou chez leurs maîtresses les négociants enrichis qui veulent jouir de la vie. quoique Matifat, qui n'avait pas une fortune aussi considérable que celle de son ami Camusot, eût fait les choses assez mesquinement, Lucien fut surpris en voyant une salle à manger artistement décorée, tapissée en drap vert, garnie de clous à tête dorée, éclairée par de belles lampes, meublée de jardinières pleines de fleurs, et un salon tendu de soie jaune, relevé par des agréments bruns, où resplendissaient les meubles alors à la mode, un lustre de thomir, un tapis à dessins perses. La pendule, les candélabres, le feu, tout était de bon goût. Matifat avait laissé tout ordonner par Grindot, un jeune architecte qui lui bâtissait une maison et qui, sachant la destination de cet appartement, y mit un soin particulier. Aussi Matifat, toujours négociant, prenait-il des précautions pour toucher aux moindres choses. Il semblait avoir sans cesse devant lui le chiffre des mémoires et regardait ces magnificences comme des bijoux imprudemment sortis d'un écrin. Voilà pourtant ce que je serais forcé de faire pour Florentine, était une pensée qui se lisait dans les yeux du père Cardot. Lucien comprit soudain que l'état de la chambre où demeurait Lousteau n'inquiétait guère le journaliste aimé. Roi secret de ses fêtes, Étienne jouissait de toutes ces belles choses. Aussi se carrait-il en maître de maison, devant la cheminée, en causant avec le directeur qui félicitait Dubruel. « La copie ! La copie !» cria Finot en entrant. « Rien dans la boîte du journal. Les compositeurs tiennent mon article et l'auront bientôt fini. »« Nous arrivons, » dit Étienne. « Nous trouverons une table et du feu dans le boudoir de Florine. Si M. Matifat veut nous procurer du papier et de l'encre, nous brocherons le journal pendant que Florine et Coralie s'habillent. » Cardot, Camusot et Matifat disparurent, empressés de chercher les plumes, les canifs et tout ce qu'il fallait aux deux écrivains. En ce moment, une des plus jolies danseuses de ce temps, Tullia, se précipita dans le salon. « Mon cher enfant, dit-elle à Finot, on t'accorde tes 100 abonnements, ils ne coûteront rien à la direction, ils sont déjà placés, imposés au chant, à l'orchestre et au corps de ballet. Ton journal est si spirituel que personne ne se plaindra. Tu auras tes loges. Enfin, voici le prix du premier trimestre, dit-elle en présentant 2 billets de banque. Ainsi, ne m'échine pas. Je suis perdu, s'écria Finot. Je n'ai plus d'article de tête pour mon numéro, car il faut aller supprimer ma diatribe. Quel beau mouvement, ma divine Laïs, s'écria Blondet, qui suivait la danseuse avec Nathan, Vernou et Claude Vignon, amenés par lui. Tu resteras à souper avec nous, cher amour, où je te fais écraser comme un papillon que tu es. En ta qualité de danseuse, tu n'exciteras ici aucune rivalité de talent. Quant à la beauté, vous avez toutes trop d'esprit pour être jalouses en public. Mon Dieu, mes amis, Dubruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi, cria Finot. J'ai besoin de 5 colonnes. J'en ferai 2 avec la pièce, dit Lucien. Mon sujet en donnera bien 2, dit Lousteau. Eh bien, Nathan, Vernou, Dubruel, faites-moi les plaisanteries de la fin. Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer les 2 petites colonnes de la première page. Je cours à l'imprimerie. Heureusement, Tullia, tu es venue avec ta voiture. Oui, mais le duc y est avec un ministre allemand, dit-elle. Invitons le duc et le ministre, dit Nathan. Un Allemand, ça boit bien. Ça écoute. Nous le fusillerons à coups de hardiesse. Il en écrira à sa cour, s'écria Blondet. Quel est de nous tous le personnage assez sérieux pour descendre lui parler, dit Finot. Allons, Dubruel, tu es un bureaucrate, amène le duc de Rhétoré, le ministre, et donne le bras à Tullia. Mon Dieu, Tullia, est-elle belle ce soir? Nous allons être 13, dit Matifat en pâlissant. Non, 14, s'écria Florentine en arrivant, je veux surveiller Milord Cardot. D'ailleurs, dit Lousteau, Blondet est accompagné de Claude Vignon. Je l'ai mené boire, répondit Blondet en prenant un encrier. Ah ça, vous autres, ayez de l'esprit pour les 56 bouteilles de vin que nous boirons, dit-il à Nathan et à Vernou. Surtout, stimulez Dubruel, c'est un vaudevilliste, il est capable de faire quelques méchantes pointes. Élevez-le jusqu'au bon mot. Lucien, animé par le désir de faire ses preuves devant des personnages si remarquables, écrivit son premier article sur la table ronde du boudoir de Florine, à la lueur des bougies roses allumées par Matifat. Fin de la 22e section. Vingt-troisième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Panorama dramatique. Première représentation de l'Alcade dans l'embarras. Imbroglio en trois actes. Début de Mademoiselle Florine, Mademoiselle Coralie, Bouffé. On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche quelque chose et l'on ne trouve rien. Tout est en rumeur. L'Alcade a perdu sa fille et retrouve son bonnet, mais le bonnet ne lui va pas. Ce doit être le bonnet d'un voleur. Où est le voleur? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche de plus belle. L'Alcade finit par trouver un homme sans sa fille, et sa fille sans un homme, ce qui est satisfaisant pour le magistrat, et non pour le public. Le calme renaît. L'Alcade veut interroger l'homme. Ce vieil Alcade s'assied dans un grand fauteuil d'Alcade en arrangeant ses manches d'Alcade. L'Espagne est le seul pays où il y ait des Alcades attachés à de grandes manches, où se voient autour du cou des alcades, des fraises qui sur les théâtres de Paris sont la moitié de leur place et de leur gravité. Cet alcade qui a tant trottiné d'un petit pas de vieillard poussif est Bouffé. Bouffé, le successeur de Potier. Un jeune acteur qui fait si bien les vieillards qu'il a fait rire les plus vieux vieillards. Il y a un avenir de 100 vieillards dans ce front chauve, dans cette voix chevrotante, dans ces fuseaux tremblants sous un corps de géronte. Il est si vieux, ce jeune acteur, qu'il effraie. On a peur que sa vieillesse ne se communique comme une maladie contagieuse. Et quel admirable alcade! Quel charmant sourire inquiet! Quelle bêtise importante! Quelle dignité stupide! Quelle hésitation judiciaire! Comme cet homme sait bien que tout peut devenir alternativement faux et vrai! Comme il est digne d'être le ministre d'un roi constitutionnel! À chacune des demandes de l'alcade, l'inconnu l'interroge. Bouffé répond, en sorte que, questionné par la réponse, l'alcade éclaircit tout par ses demandes. Cette scène éminemment comique, où respire un parfum de Molière, a mis la salle en joie. Tout le monde est d'accord. Mais je suis hors d'état de vous dire ce qui est clair et ce qui est obscur. La fille de l'alcade était là, représentée par une véritable Andalouse, une Espagnole, aux yeux espagnols, au teint espagnol, à la taille espagnole, à la démarche espagnole. Une Espagnole de pied en cap, avec son poignard dans sa jarretière, son amour au cœur, sa croix au bout d'un ruban sur la gorge. À la fin de l'acte, quelqu'un m'a demandé comment allait la pièce. Je lui ai dit, « Elle a des bas rouges à coins verts, un pied grand comme ça, dans des souliers vernis, et la plus belle jambe de l'Andalousie. » Ah, cette fille d'Alcade, elle fait venir l'amour à la bouche. Elle vous donne des désirs horribles. On a envie de sauter dessus la scène et de lui offrir sa chaumière et son cœur, ou 30 000 livres de rente et sa plume. Cette Andalouse est la plus belle actrice de Paris. Coralie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est capable d'être comtesse ou grisette. On ne sait sous quelle forme elle plairait davantage. Elle sera ce qu'elle voudra être. Elle est née pour tout faire. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux à dire d'une actrice au boulevard ? Au second acte est arrivée une Espagnole de Paris, avec sa figure de camée et ses yeux assassins. J'ai demandé à mon tour d'où elle venait. On m'a répondu qu'elle sortait de la coulisse et se nommait Mademoiselle Florine. Mais, ma foi, je n'en ai rien pu croire, tant elle avait de feu dans les mouvements, de fureur dans son amour. Cette rivale de la fille de l'alcade est la femme d'un seigneur taillé dans le manteau d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pour 100 grands seigneurs du boulevard. Si Florine n'avait ni bas rouges à coins verts, ni souliers vernis, elle avait une mantille, un voile dont elle se servait admirablement. La grande dame qu'elle est. Elle a fait voir à merveille que la tigresse peut devenir chatte. J'ai compris qu'il y avait là quelque drame de jalousie, au mot piquant, que ces deux Espagnols se sont dit. Puis, quand tout allait s'arranger, la bêtise de l'alcade a tout rebrouillé. Tout ce monde de flambeaux, de torches, de valets, de figaro, de seigneurs, d'alcades, de filles et de femmes, s'est remis à chercher, aller, venir, tourner. L'intrigue s'est alors renouée, et je l'ai laissée se renouer, car ces deux femmes, Florine la jalouse et l'heureuse Coralie, m'ont entortillé de nouveau dans les plis de leurs basquines, de leurs mantilles, et m'ont fourré leurs petits pieds dans l'œil. J'ai pu gagner le troisième acte sans avoir fait de malheur, sans avoir nécessité l'intervention du commissaire de police, ni scandalisé la salle, et je crois dès lors à la puissance de la morale publique et religieuse dont on s'occupe à la Chambre des députés. J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aime deux femmes sans en être aimé, ou qui en est aimé sans les aimer, qui n'aime pas les alcades, ou que les alcades n'aiment pas, mais qui, à coup sûr, est un brave seigneur qui aime quelqu'un, lui-même ou Dieu, comme Pis-aller, car il se fait moine. Si vous voulez en savoir davantage, allez au panorama dramatique. Vous voilà suffisamment prévenu qu'il faut y aller une première fois pour se faire à ces triomphants bas rouges à coins verts, à ce petit pied plein de promesses, à ces yeux qui filtrent le soleil, à ces finesses de femmes parisiennes déguisées en andalouses, et d'andalouses déguisées en parisiennes. Puis, une seconde fois pour jouir de la pièce qui fait mourir de rire, sous forme de vieillard, pleurer sous forme de seigneur amoureux. La pièce a réussi sous les deux espèces. L'auteur, qui, dit-on, a pour collaborateur un de nos grands poètes, a visé le succès avec une fille amoureuse dans chaque main. Aussi a-t-il failli tuer de plaisir son parterre en émoi. Les jambes de ces deux filles semblaient avoir plus d'esprit que l'auteur. Néanmoins, quand les deux rivales s'en allaient, on trouvait le dialogue spirituel, ce qui prouve assez victorieusement l'excellence de la pièce. L'auteur a été nommé au milieu d'applaudissements qui ont donné des inquiétudes à l'architecte de la salle. Mais l'auteur, habitué à ces mouvements du Vésuve aviné qui bout sous le lustre, ne tremblait pas. C'est Monsieur Dubruel. Quant aux deux actrices, elles ont dansé le fameux boléro de Séville, qui a trouvé grâce devant les pères du concile autrefois, et que la censure a permis, malgré la lasciveté des poses. Ce boléro suffit à attirer tous les vieillards qui ne savent que faire de leur reste d'amour, et j'ai la charité de les avertir de tenir le verre de leur lorgnette très limpide. Pendant que Lucien écrivait cet article qui fit révolution dans le journalisme par la révélation d'une manière neuve et originale, Lousteau écrivait un article dit de mœurs, intitulé « L'ex-beau » et qui commençait ainsi. Le beau de l'Empire est toujours un homme long et mince, bien conservé, qui porte un corset et qui a la croix de la Légion d'honneur. Il s'appelle quelque chose comme Potelé. Et, pour se mettre bien en cour aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est gratifié d'un « du ». Il est « du Potelé », quitte à redevenir Potelé en cas de révolution. Homme à deux fins d'ailleurs, comme son nom, il fait la cour au faubourg Saint-Germain après avoir été le glorieux, l'utile et l'agréable porte-queue d'une sœur de cet homme que la pudeur m'empêche de nommer. Si du Potelé renie son service auprès de l'Altesse impériale, il chante encore les romances de sa bienfaitrice intime. L'article était un tissu de personnalités comme on les faisait à cette époque. Il s'y trouvait entre Madame de Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la cour, et un os de sèche, un parallèle bouffon qui plaisait sans qu'on eût besoin de connaître les deux personnes desquelles on se moquait. Châtelet était comparé à un héron. Les amours de ce héron ne pouvant avaler la sèche, qui se cassait en trois quand il la laissait tomber, provoquait irrésistiblement le rire. Cette plaisanterie qui se divisa en plusieurs articles eut, comme on sait, un retentissement énorme dans le faubourg Saint-Germain, et fut une des mille et une causes des rigueurs apportées à la législation de la presse. Une heure après, Blondet, Lousteau, Lucien revinrent au salon où causaient les convives, le duc, le ministre et les quatre femmes, les trois négociants, le directeur du théâtre, Finot et les trois auteurs. Un apprenti, coiffé de son bonnet de papier, était déjà venu chercher la copie pour le journal. « Les ouvriers vont quitter si je ne leur rapporte rien, » dit-il. « Tiens, voilà 10 francs, et qu'ils attendent, » répondit Finot. « Si je les leur donne, monsieur, ils feront de la soulographie, et adieu le journal. »« Le bon sens de cet enfant m'épouvante, » dit Finot. Ce fut au moment où le ministre prédisait un brillant avenir à ce gamin que les trois auteurs entrèrent. Blondet lut un article excessivement spirituel contre les romantiques. L'article de Lousteau fit rire. Le duc de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop indisposer le faubourg Saint-Germain, d'y glisser un éloge indirect pour Madame d'Espard. « Et vous, lisez-nous ce que vous avez fait, » dit Finot à Lucien. Quand Lucien, qui tremblait de peur, eut fini, le salon retentissait d'applaudissements. Les actrices embrassaient le néophyte, les trois négociants le serraient à l'étouffer. Du Bruel lui prenait la main et avait une larme à l'œil. Enfin, le directeur l'invitait à dîner. « Il n'y a plus d'enfant, » dit Blondet. Comme monsieur de Chateaubriand a déjà fait le mot « d'enfant sublime » pour Victor Hugo, je suis obligé de vous dire tout simplement que vous êtes un homme d'esprit, de cœur et de style. « Monsieur est du journal, » dit Finot en remerciant Étienne et lui jetant le fin regard de l'exploitateur. « Quel mot avez-vous fait ?» dit Lousteau à Blondet et Du Bruel. « Voilà ceux de Du Bruel, » dit Nathan. En voyant combien monsieur le vicomte d'A occupe le public, monsieur le vicomte Démosthène a dit hier, « Ils vont peut-être me laisser tranquille. » Une dame dit à un ultra qui blâmait le discours de monsieur Pasquier, comme continuant le système de Decazes, « Oui, mais il a des mollets bien monarchiques. » « Si ça commence ainsi, je ne vous en demande pas davantage. Tout va bien, » dit Finot. « Cours leur porter cela, » dit-il à l'apprenti. « Le journal est un peu plaqué, mais c'est notre meilleur numéro, » dit-il en se tournant vers le groupe des écrivains qui déjà regardaient Lucien avec une sorte de sournoiserie. « Il a de l'esprit, ce gars-là, » dit Blondet. « Son article est bien, » dit Claude Vignon. « À table !» cria Matifat. Le duc donna le bras à Florine, Coralie prit celui de Lucien, et la danseuse eut d'un côté Blondet, de l'autre le ministre allemand. « Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez Madame de Bargeton et le baron Châtelet, qui est, dit-on, nommé préfet de la Charente et maître des requêtes. » « Madame de Bargeton a mis Lucien à la porte comme un drôle, » dit Lousteau. « Un si beau jeune homme, » fit le ministre. Le souper, servi dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de Sèvres, sur du linge damassé, respirait une magnificence cossue. Chevet avait fait le souper. Les vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot. Lucien, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchait ainsi de surprise en surprise, et cachait son étonnement en homme d'esprit, de cœur et de style qu'il était, selon le mot de Blondet. En traversant le salon, Coralie avait dit à l'oreille de Florine, « Fais-moi si bien griser Camusot qu'il soit obligé de rester endormi chez toi. »« Tu as donc fait ton journaliste ?» répondit Florine. « Non, ma chère, je l'aime, » répliqua Coralie en faisant un admirable petit mouvement d'épaule. Ces paroles avaient retenti dans l'oreille de Lucien, apportées par le cinquième péché capital. Coralie était admirablement bien habillée, et sa toilette mettait savamment en relief ses beautés spéciales, car toute femme a des perfections qui lui sont propres. Sa robe, comme celle de Florine, avait le mérite d'être d'une délicieuse étoffe inédite nommée mousseline de soie, dont la primeur appartenait pour quelques jours à Camusot, l'une des providences parisiennes des fabriques de Lyon, en sa qualité de chef du cocon d'or. Ainsi, l'amour et la toilette, ce phare et ce parfum de la femme, rehaussaient les séductions de l'heureuse Coralie. Un plaisir attendu, et qui ne nous échappera pas, exerce des séductions immenses sur les jeunes gens. Peut-être la certitude est-elle à leurs yeux tout l'attrait des mauvais lieux. Peut-être est-elle le secret des longues fidélités. L'amour pur, sincère, le premier amour enfin, joint à l'une de ces rages fantasques qui piquent ces pauvres créatures, et aussi l'admiration causée par la grande beauté de Lucien, donnèrent l'esprit du cœur à Coralie. « Je t'aimerai laid et malade, » dit-elle à l'oreille de Lucien en se mettant à table. Quel mot pour un poète ! Camusot disparut et Lucien ne le vit plus en voyant Coralie. Était-ce un homme tout jouissance et tout sensation, ennuyé de la monotonie de la province, attiré par les abîmes de Paris, lassé de misère, harcelé par sa continence forcée, fatigué de sa vie monacale, rue de Cluny, de ses travaux sans résultat, qui pouvait se retirer de ce festin brillant? Lucien avait un pied dans le lit de Coralie, et l'autre dans la glu du journal, au devant duquel il avait tant couru sans pouvoir le joindre. Après tant de factions montées en vin rue du Sentier, il trouvait le journal attablé, buvant frais, joyeux, bon garçon. Il venait d'être vengé de toutes ses douleurs par un article qui devait le lendemain même percer deux cœurs où il avait voulu, mais en vain, verser la rage et la douleur dont on l'avait abreuvé. En regardant Lousteau, il se disait « Voilà un ami », sans se douter que déjà Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Lucien avait eu le tort de montrer tout son esprit. Un article terne l'eût admirablement servi. Blondet contrebalança l'envie qui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait capituler avec le talent quand il était de cette force-là. Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau, qui résolut de rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec Finot pour exploiter un nouveau venu si dangereux en le maintenant dans le besoin. Ce fut un parti pris rapidement et compris dans toute son étendue entre ces deux hommes par deux phrases dites d'oreille à oreille. « Il a du talent. Il sera exigeant. »« Oh, bon. » »« Je ne soupe jamais sans effroi avec des journalistes français, » dit le diplomate allemand avec une bonhomie calme et digne en regardant Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de Montcornet. « Il y a un mot de Blücher que vous êtes chargé de réaliser. » « Quel mot ? » dit Nathan. « Quand Blücher arriva sur les hauteurs de Montmartre avec Saaken, en 1814, pardonnez-moi, messieurs, de vous reporter à ce jour fatal pour vous, Saaken, qui était un brutal, dit « Nous allons donc brûler Paris. » « Gardez-vous-en bien, la France ne mourra que de ça, » répondit Blücher en montrant ce grand chancre qu'il voyait étendu à leurs pieds, ardent et fumeux, dans la vallée de la Seine. « Je bénis Dieu de ce qu'il n'y a pas de journaux dans mon pays. » reprit le ministre après une pause. Je ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a causé ce petit bonhomme coiffé de papier, qui, à 10 ans, possède la raison d'un vieux diplomate. Aussi, ce soir, me semble-t-il que je soupe avec des lions et des panthères qui me font l'honneur de velouter leurs pattes. Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et prouver à l'Europe que votre Excellence a vomi un serpent ce soir. Qu'elle a manqué l'inoculer à mademoiselle Tullia, la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus faire des commentaires sur Ève, la Bible, le premier et le dernier péché. Mais rassurez-vous, vous êtes notre hôte. Ce serait drôle, dit Finot. Nous ferions imprimer des dissertations scientifiques sur tous les serpents trouvés dans le cœur et dans le corps humain pour arriver au corps diplomatique, dit Lousteau. Nous pourrions montrer un serpent quelconque dans ce bocal de cerises à l'eau de vie, dit Vernou. Vous finirez par le croire vous-même, dit Vignon au diplomate. Le serpent est assez ami de la danseuse, dit du Bruel. Dites d'un premier sujet, reprit Tullia. Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui dorment, s'écria le duc de Rhétoré. L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore, dit Finot. Le journalisme est dans l'enfance, il grandira. Tout, dans 10 ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout. Elle flétrira tout, dit Blondet, en interrompant Finot. C'est un mot, dit Claude Vignon. Elle fera des rois, dit Lousteau. Et défera les monarchies, dit le diplomate. Aussi, dit Blondet, si la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer. Mais la voilà, nous en vivons. Vous en mourrez, dit le diplomate. Ne voyez-vous pas que la supériorité des masses, en supposant que vous les éclairiez, rendra la grandeur de l'individu plus difficile? Qu'en semant le raisonnement au cœur des basses classes, vous récolterez la révolte et que vous en serez les premières victimes. Que casse-t-on à Paris quand il y a une émeute? Les réverbères, dit Nathan. Mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes. Nous ne serons que fêlés. Vous êtes un peuple trop spirituel pour permettre à un gouvernement de se développer, dit le ministre. Sans cela, vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épée n'a pas su garder. Les journaux sont un mal, dit Claude Vignon. On pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut le combattre. Une lutte s'ensuivra. Qui succombera? Voilà la question. Le gouvernement, dit Blondet, je me tue à le crier. En France, l'esprit est plus fort que tout, et les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe. Blondet, Blondet, dit Finot, tu vas trop loin, il y a des abonnés ici. Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de venin, tu dois avoir peur, mais moi, je me moque de toutes vos boutiques, quoique j'en vive. Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyens, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est pas fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai, moi, Vignon, vous serez, toi, Lousteau, toi, Blondet, toi, Finot, des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents. Nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce. Personne ne s'en croit sali personnellement. Mais le pouvoir fera des lois répressives, dit du Bruel. Il en prépare. Bah, que peut la loi contre l'esprit français, dit Nathan, le plus subtil de tous les dissolvants. Les idées ne peuvent être neutralisées que par des idées, reprit Vignon. La terreur, le despotisme, peuvent seuls étouffer le génie français dont la langue se prête admirablement à l'allusion, à la double entente. Plus la loi sera répressive, plus l'esprit éclatera, comme la vapeur dans une machine à soupape. Ainsi, le roi fait du bien. Si le journal est contre lui, ce sera le ministre qui aura tout fait, et réciproquement. Si le journal invente une infâme calomnie, ou la lui a dite. À l'individu qui se plaint, il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S'il est traîné devant les tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui demander une rectification. Mais demandez-la lui. Il la refuse en riant. Il traite son crime de bagatelle. Enfin, il bafoue sa victime quand elle triomphe. S'il est puni, s'il a trop d'amendes à payer, il vous signalera le plaignant comme un ennemi des libertés, du pays et des lumières. Il dira que monsieur un tel est un voleur en expliquant comment il est le plus honnête homme du royaume. Ainsi, ses crimes, bagatelles, ses agresseurs, des monstres. Et il peut en un temps donné faire croire ce qu'il veut à des gens qui le lisent tous les jours. Puis, rien de ce qui lui déplaît ne sera patriotique, et jamais il n'aura tort. Il se servira de la religion contre la religion, de la charte contre le roi. Il bafouera la magistrature quand la magistrature le froissera. Il la louera quand elle aura servi les passions populaires. Pour gagner des abonnés, il invitera les fables les plus émouvantes. Il fera la parade comme Bobèche. Le journal servirait son père tout cru à la croque-au-sel de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas intéresser ou amuser son public. Ce sera l'acteur mettant les cendres de son fils dans l'urne pour pleurer véritablement, la maîtresse sacrifiant tout à son ami. « C'est enfin le peuple in folio !» s'écria Blondet en interrompant Vignon. « Le peuple hypocrite est sans générosité, » reprit Vignon. « Il bannira de son sein le talent, comme Athènes a banni Aristide. Nous verrons les journaux, dirigés d'abord par des hommes d'honneur, tomber plus tard sous le gouvernement des plus médiocres, qui auront la patience et la lâcheté de gomme élastique qui manque au beau génie, ou à des épiciers, qui auront de l'argent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà ces choses-là. Mais dans 10 ans, le premier gamin sorti du collège se croira un grand homme. Il montera sur la colonne d'un journal pour souffleter ses devanciers. Il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait bien raison de museler la presse. Je gagerais que, sous un gouvernement élevé par elle, les feuilles de l'opposition battraient en brèche par les mêmes raisons et par les mêmes articles qui se font aujourd'hui contre celui du roi, ce même gouvernement au moment où il leur refuserait quoi que ce fût. Plus on fera de concessions aux journalistes, plus les journaux seront exigeants. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et pauvres. La plaie est incurable, elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente, et plus le mal sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux par leur abondance, comme à Babylone. Nous savons, tous tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculation et en calcul, qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs 3-6 cérébrales. Mais nous écrirons tous comme ces gens qui exploitent une mine de vif argent en sachant qu'ils y mourront. Voilà là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme, comment se nomme-t-il ? Lucien. Il est beau, il est poète, et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées. Il y desséchera son cerveau. Il y corrompra son âme. Il y commettra ces lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieri. Quand il aura, lui, comme 1000 autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim. « Merci, » dit Finot. « Mais, mon Dieu, » dit Claude Vignon, « je savais cela. Je suis dans le bagne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir. Blondet et moi, nous sommes plus forts que messieurs tels et tels qui spéculent sur nos talents, et nous serons néanmoins toujours exploités par eux. Nous avons du cœur sous notre intelligence. Il nous manque les féroces qualités de l'exploitant. Nous sommes paresseux, contemplateurs, méditatifs, jugeurs. On boira notre cervelle et l'on nous accusera d'inconduite. « J'ai cru que vous seriez plus drôle, » s'écria Florine. « Florine a raison, » dit Blondet. « Laissons la cure des maladies publiques à ces charlatans d'hommes d'État. Comme dit Charlet, cracher sur la vendange ? Jamais !» Savez-vous de quoi Vignon me fait l'effet ? Dit Lousteau en montrant Lucien. D'une de ces grosses femmes de la rue du Pélican qui dirait à un collégien « Mon petit, tu es trop jeune pour venir ici. » Cette saillie fit rire, mais elle plut à Coralie. Les négociants buvaient et mangeaient en écoutant. Quelle nation que celle où il se rencontre tant de bien et tant de mal, dit le ministre au duc de Rhétoré. Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne pouvez pas vous ruiner. Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun enseignement ne manquait à Lucien sur la pente du précipice où il devait tomber. D'Arthez avait mis le poète dans la noble voie du travail en réveillant le sentiment sous lequel disparaissent les obstacles. Lousteau lui-même avait essayé de l'éloigner par une pensée égoïste en lui dépeignant le journalisme et la littérature sous leur vrai jour. Lucien n'avait pas voulu croire à tant de corruption cachée, mais il entendait enfin des journalistes criant de leur mal, il les voyait à l'œuvre, éventrant leur nourrice pour prédire l'avenir. Il avait, pendant cette soirée, vu les choses comme elles sont. Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne si bien qualifiée par Blücher, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires, sous l'armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froide analyse, il les trouvait supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle. Puis il savourait les premières délices de la richesse. Il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chère. Ses instincts capricieux se réveillaient. Il buvait pour la première fois des vins d'élite. Il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine. Il voyait un ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes, admirant leur atroce pouvoir. Il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois. Il se trouvait la force de les vaincre. Enfin, cette Coralie qu'il venait de rendre heureuse par quelques phrases, il l'avait examinée à la lueur des bougies du festin, à travers la fumée des plats et le brouillard de l'ivresse. Elle lui paraissait sublime. L'amour la rendait si belle. Cette fille était d'ailleurs la plus jolie, la plus belle actrice de Paris. Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence noble, dut succomber sous une tentation si complète. La vanité particulière aux auteurs venait d'être caressée chez Lucien par des connaisseurs. Il avait été loué par ses futurs rivaux. Le succès de son article et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que la sienne. Pendant cette discussion, tout le monde avait remarquablement bien mangé, supérieurement bu. Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa deux ou trois fois du kirsch dans son vin, sans que personne y fît attention, et il stimula son amour-propre pour l'engager à boire. Cette manœuvre fut si bien menée que le négociant ne s'en aperçut pas. Il se croyait dans son genre aussi malicieux que les journalistes. Les plaisanteries acerbes commencèrent au moment où les friandises du dessert et les vins circulèrent. Le diplomate, en homme de beaucoup d'esprit, fit un signe au duc et à la danseuse dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes grotesques par lesquelles finissent les orgies, et tous trois ils disparurent. Dès que Camusot eut perdu la tête, Coralie et Lucien, qui, durant tout le souper, se comportèrent en amoureux de 15 ans, s'enfuirent par les escaliers et se jetèrent dans un fiacre. Comme Camusot était sous la table, Matifat crut qu'il avait disparu de compagnie avec l'actrice. Il laissa ses hôtes fumant, buvant, riant, disputant, et suivit Florine quand elle alla se coucher. Le jour surprit les combattants, ou plutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui put parler et qui proposait aux dormeurs un toast à l'aurore aux doigts de rose. Lucien n'avait pas l'habitude des orgies parisiennes. Il jouissait bien encore de sa raison quand il descendit les escaliers, mais le grand air détermina son ivresse qui fut hideuse. Coralie et sa femme de chambre furent obligées de monter le poète au premier étage de la belle maison où logeait l'actrice rue de Vendôme. Dans l'escalier, Lucien faillit se trouver mal et fut ignoblement malade. « Vite, Bérénice !» s'écria Coralie. « Du thé, fais du thé !»« Ce n'est rien, c'est l'air, » disait Lucien. « Et puis je n'ai jamais tant bu. »« Pauvre enfant, c'est innocent comme un agneau, » dit Bérénice. Bérénice était une grosse Normande, aussi laide que Coralie était belle. Enfin, Lucien fut mis à son insu dans le lit de Coralie. Aidée par Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le soin et l'amour d'une mère pour un petit enfant son poète qui disait toujours « C'est rien, c'est l'air. Merci, maman. » « Comme il dit bien maman !» s'écria Coralie en le baisant dans les cheveux. « Quel plaisir d'aimer un pareil ange, mademoiselle, et où l'avez-vous pêché ? Je ne croyais pas qu'il pût exister un homme aussi joli que vous êtes belle, » dit Bérénice. Lucien voulait dormir, il ne savait où il était et ne voyait rien. Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de thé, puis elle le laissa dormant. « La portière ni personne ne nous a vus, » dit Coralie. « Non, je vous attendais. Victoire ne sait rien. »« Plus souvent, » dit Bérénice. 10 heures après, vers midi, Lucien se réveilla sous les yeux de Coralie qui l'avait regardé dormant. Il comprit cela, le poète. L'actrice était encore dans sa belle robe, abominablement tachée, et de laquelle elle allait faire une relique. Lucien reconnut les dévouements, les délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa récompense. Il regarda Coralie. Coralie fut déshabillée en un moment et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. À 5 heures, le poète dormait, bercé par des voluptés divines. Il avait entrevu la chambre de l'actrice, une ravissante création du luxe, toute blanche et rose, un monde de merveilles et de coquettes recherches qui surpassait ce que Lucien avait admiré déjà chez Florine. Coralie était debout. Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle devait être à 7 heures au théâtre. Elle avait encore contemplé son poète endormi dans le plaisir. Elle s'était enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble amour qui réunissait les sens au cœur et le cœur aux sens pour les exalter ensemble. Cette divinisation, qui permet d'être deux ici-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour aimer, était son absolution. À qui d'ailleurs la beauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse? Agenouillée à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait sanctifiée. Ses délices furent troublées par Bérénice. « Voici le Camusot, il vous sait ici » cria-t-elle. Lucien se dressa, pensant avec une générosité innée à ne pas nuire à Coralie. Bérénice leva un rideau. Lucien entra dans un délicieux cabinet de toilette où Bérénice et sa maîtresse apportèrent avec une prestesse inouïe les vêtements de Lucien. Quand le négociant apparut, les bottes du poète frappèrent les regards de Coralie. Bérénice les avait mises devant le feu pour les chauffer après les avoir cirées en secret. La servante et la maîtresse avaient oublié ces bottes accusatrices. Bérénice partit après avoir échangé un regard d'inquiétude avec sa maîtresse. Coralie se plongea dans sa causeuse et dit à Camusot de s'asseoir dans une gondole en face d'elle. Le brave homme, qui adorait Coralie, regardait les bottes et n'osait lever les yeux sur sa maîtresse. « Dois-je prendre la mouche pour cette paire de bottes et quitter Coralie ?»« La quitter ? Ce serait se fâcher pour peu de choses. Il y a des bottes partout. Celle-ci serait mieux placée dans l'étalage d'un bottier ou sur les boulevards à se promener aux jambes d'un homme. » Cependant, ici, sans jambes, elles disent bien des choses contraires à la fidélité. J'ai 50 ans, il est vrai. Je dois être aveugle comme l'amour. Ce lâche monologue était sans excuse. La paire de bottes n'était pas de ces demi-bottes en usage aujourd'hui, et que jusqu'à un certain point un homme distrait pourrait ne pas voir. C'était, comme la mode ordonnait alors de les porter, une paire de bottes entières, très élégantes et à glands, qui reluisait sur des pantalons collants, presque toujours de couleur claire, et où se reflétaient les objets comme dans un miroir. Ainsi les bottes crevaient les yeux de l'honnête marchand de soierie, et, disons-le, elles lui crevaient le cœur. « Qu'avez-vous ? » lui dit Coralie. « Rien, dit-il. « Sonnez, dit Coralie en souriant de la lâcheté de Camusot. « Bérénice, dit-elle à la Normande dès qu'elle arriva, Ayez-moi donc des crochets pour que je mette encore ces damnées bottes. Vous n'oublierez pas de les apporter ce soir dans ma loge. Comment ? Vos bottes ? Dit Camusot, qui respira plus à l'aise. Et que croyez-vous donc ? Demanda-t-elle d'un air hautain. Grosse bête, n'allez-vous pas croire ? Oh, il le croirait, dit-elle à Bérénice. J'ai un rôle d'homme dans la pièce de choses, et je ne me suis jamais mise en homme. Le bottier du théâtre m'a apporté ces bottes-là pour essayer à marcher en attendant la paire de laquelle il m'a pris mesure. Il me les a mises, mais j'ai tant souffert que je les ai ôtées, et je dois cependant les remettre. Ne les remettez pas si elles vous gênent, dit Camusot, que les bottes avaient tant gêné. Mademoiselle, dit Bérénice, ferait mieux, au lieu de se martyriser, comme tout à l'heure. Elle en pleurait, monsieur, et si j'étais homme, jamais une femme que j'aimerais ne pleurerait. Elle ferait mieux de les porter en maroquin, bien mince. Mais l'administration est si ladre. Monsieur, vous devriez aller lui en commander. Oui, oui, dit le négociant. Vous vous levez, dit-il à Coralie. À l'instant, je ne suis rentré qu'à 6 heures, après vous avoir cherché partout. Vous m'avez fait garder mon fiacre pendant 7 heures. Voilà de vos soins. M'oublier pour des bouteilles. J'ai dû me soigner, moi qui vais jouer maintenant tous les soirs, tant que l'alcade fera de l'argent. Je n'ai pas envie de mentir à l'article de ce jeune homme. Il est beau, cet enfant-là, dit Camusot. Vous trouvez ? Je n'aime pas ces hommes-là. Ils ressemblent trop à une femme. Et puis, ça ne s'est pas aimé comme vous autres, vieille bête du commerce. Vous vous ennuyez tant. Monsieur dîne-t-il avec madame ? Demanda Bérénice. Non, j'ai la bouche empâtée. Vous avez été joliment paf hier. Ah, papa Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les hommes qui boivent. Tu feras un cadeau à ce jeune homme, dit le négociant. Ah oui, j'aime mieux les payer ainsi que de faire ce que fait Florine. Allons, mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi ma voiture pour que je file au théâtre. Vous l'aurez demain pour dîner avec votre directeur, au Rocher de Cancale. Il ne donnera pas la pièce nouvelle dimanche. « Venez, je vais dîner, » dit Coralie en emmenant Camusot. Une heure après, Lucien fut délivré par Bérénice, la compagne d'enfance de Coralie, une créature aussi fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était corpulente. « Restez ici, Coralie reviendra seule. Elle veut même congédier Camusot s'il vous ennuie, » dit Bérénice à Lucien. « Mais, cher enfant de son cœur, vous êtes trop ange pour la ruiner. » Elle me l'a dit. Elle est décidée à tout planter là, à sortir de ce paradis pour aller vivre dans votre mansarde. Oh, les jaloux, les envieux ne lui ont-ils pas expliqué que vous n'aviez ni sou ni maille, que vous viviez au quartier latin ? Je vous suivrai, voyez-vous, je vous ferai votre ménage, mais je viens de consoler la pauvre enfant. Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour donner dans de pareilles bêtises ? Ah, vous verrez bien que l'autre gros n'a rien que le cadavre et que vous êtes le chéri. Le bien-aimé, la divinité à laquelle on abandonne l'âme. Si vous saviez comme ma Coralie est gentille quand je lui fais répéter ses rôles, un amour d'enfant, quoi. Elle méritait bien que Dieu lui envoyât un de ses anges. Elle avait le dégoût de la vie. Elle a été si malheureuse avec sa mère, qui l'a battée, qui l'a vendue. Oui, monsieur, une mère, sa propre enfant. Si j'avais une fille, je la servirais comme ma petite Coralie. De qui je me suis fait un enfant. Voilà le premier bon temps que je lui ai vu, la première fois qu'elle a été bien applaudie. Il paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a monté une fameuse claque pour la seconde représentation. Pendant que vous dormiez, Braulard est venu travailler avec elle. Qui, Braulard ? Demanda Lucien, qui crut avoir entendu déjà ce nom. Le chef des claqueurs, qui, de concert avec elle, est convenu des endroits du rôle où elle serait soignée. Quoiqu'elle se dise son amie, Florine pourrait vouloir lui jouer un mauvais tour et prendre tout pour elle. Tout le boulevard est en rumeur à cause de votre article. Quel lit arrangé pour les amours d'une fée et d'un prince, dit-elle en menant sur le lit un couvre-pied en dentelle. Elle alluma les bougies. Aux lumières, Lucien, étourdi, se crut en effet dans un conte du cabinet des fées. Les plus riches étoffes du cocon d'or avaient été choisies par Camusot pour servir aux tentures et aux draperies des fenêtres. Le poète marchait sur un tapis royal. les meubles en palissandre sculpté arrêtaient dans les tailles du bois des frissons de lumière qui y papillotaient. La cheminée en marbre blanc resplendissait des plus coûteuses bagatelles. La descente du lit était en cygne bordé de martre. Des pantoufles en velours noir, doublées de soie pourpre, y parlaient des plaisirs qui attendaient le poète des marguerites. Une délicieuse lampe pendait du plafond tendu de soie. Partout, des jardinières merveilleuses montraient des fleurs choisies, de jolies bruyères blanches, des camélias sans parfum. Partout vivaient les images de l'innocence. Il était impossible d'imaginer là une actrice et les mœurs du théâtre. Bérénice remarqua l'ébahissement de Lucien. « Est-ce gentil ? » lui dit-elle d'une voix câline. « Ne serez-vous pas mieux là pour aimer que dans un grenier ?»« Empêchez son coup de tête, » reprit-elle en amenant devant Lucien un magnifique guéridon chargé de mets dérobés au dîner de sa maîtresse, afin que la cuisine ne pût soupçonner la présence d'un amant. Lucien dîna très bien. Servi par Bérénice dans une argenterie sculptée, dans des assiettes peintes à 1 louis la pièce. Ce luxe agissait sur son âme comme une fille des rues agit avec ses chairs nues et ses bas blancs bien tirés sur un lycéen. « Est-il heureux, ce Camusot ? » s'écria-t-il. « Heureux ? » reprit Bérénice. « Ah, il donnerait bien sa fortune pour être à votre place et pour troquer ses vieux cheveux gris contre votre jeune chevelure blonde. » Elle engagea Lucien, à qui elle donna le plus délicieux vin que Bordeaux ait soigné pour le plus riche anglais, à se recoucher en attendant Coralie, à faire un petit somme provisoire, et Lucien avait en effet envie de se coucher dans ce lit qu'il admirait. Bérénice, qui avait lu ce désir dans les yeux du poète, en était heureuse pour sa maîtresse. À 10h30, Lucien s'éveilla sous un regard trempé d'amour. Coralie était là, dans la plus voluptueuse toilette de nuit. Lucien avait dormi. Lucien n'était plus ivre que d'amour. Bérénice se retira, demandant « À quelle heure demain ?»« 11h. Tu nous apporteras notre déjeuner au lit. Je n'y serai pour personne avant 2h. » Fin de la 23e section. Vingt-quatrième section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. À 2h le lendemain, l'actrice et son amant étaient habillés et en présence, comme si le poète fût venu faire une visite à sa protégée. Coralie avait baigné, coiffé, habillé Lucien. Elle lui avait envoyé chercher 12 belles chemises, 12 cravates, 12 mouchoirs chez Colliot, une douzaine de gants dans une boîte de cèdre. Quand elle entendit le bruit d'une voiture à sa porte, elle se précipita vers la fenêtre avec Lucien. Tous deux virent Camusot descendant d'un coupé magnifique. « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un homme et le luxe. » « Je suis trop pauvre pour consentir à ce que vous vous ruiniez, » dit Lucien en passant ainsi sous les fourches codines. « Pauvre petit chat, » dit-elle en pressant Lucien sur son cœur, « tu m'aimes donc bien ?»« J'ai engagé monsieur, » dit-elle en montrant Lucien à Camusot, « à venir me voir ce matin, en pensant que nous irions nous promener aux Champs-Élysées pour essayer la voiture. »« Allez-y seul, » dit tristement Camusot, « je ne dîne pas avec vous. » « C'est la fête de ma femme. Je l'avais oubliée. »« Pauvre Museau, comme tu t'ennuieras, » dit-elle en sautant au cou du marchand. Elle était ivre de bonheur en pensant qu'elle étrennerait seule avec Lucien ce beau coupé, qu'elle irait seule avec lui au bois, et dans son accès de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle fit 1000 caresses. « Je voudrais pouvoir vous donner une voiture tous les jours, » dit le pauvre homme. « Allons, monsieur, il est 2h, » dit l'actrice à Lucien qu'elle vit honteux et qu'elle consola par un geste adorable. Coralie dégringola les escaliers en entraînant Lucien qui entendit le négociant se traînant comme un phoque après eux, sans pouvoir les rejoindre. le poète éprouva la plus enivrante des jouissances. Coralie, que le bonheur rendait sublime, offrit à tous les yeux ravis une toilette pleine de goût et d'élégance. Le Paris des Champs-Élysées admira ces deux amants. Dans une allée du bois de Boulogne, leur coupé rencontra la calèche de mesdames d'Espard et de Bargeton qui regardèrent Lucien d'un air étonné, mais auquel il lança le coup d'œil méprisant du poète qui pressent sa gloire et va user de son pouvoir. Le moment où il put échanger par un coup d'œil avec ces deux femmes quelques-unes des pensées de vengeance qu'elles lui avaient mises au cœur pour le ronger fut un des plus doux de sa vie et décida peut-être de sa destinée. Lucien fut repris par les furies de l'orgueil. Il voulut reparaître dans le monde, y prendre une éclatante revanche, et toutes les petitesses sociales, naguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du cénacle, rentrèrent dans son âme. Il comprit alors toute la portée de l'attaque faite pour lui par Lousteau. Lousteau venait de servir ses passions. Tandis que le cénacle, ce mentor collectif, avait l'air de les mater au profit des vertus ennuyeuses et de travaux que Lucien commençait à trouver inutiles. Travailler, n'est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissance? Aussi avec quelle facilité les écrivains ne glissent-ils pas dans le farniente, dans la bonne chère et les délices de la vie luxueuse des actrices et des femmes faciles? Lucien sentit une irrésistible envie de continuer la vie de ces deux folles journées. Le dîner au rocher de Cancale fut exquis. Lucien trouva les convives de Florine, moins le ministre, moins le duc et la danseuse, moins Camusot, remplacé par deux acteurs célèbres, et par Hector Merlin, accompagné de sa maîtresse, une délicieuse femme qui se faisait appeler « Madame du Val-Noble », la plus belle et la plus élégante des femmes qui composaient alors à Paris le monde exceptionnel de ces femmes qu'aujourd'hui l'on a décemment nommées des Lorettes. Lucien, qui vivait depuis 48 heures dans un paradis, apprit le succès de son article. En se voyant fêté, envié, le poète trouva son aplomb. Son esprit scintilla, il fut le Lucien de Rubempré qui pendant plusieurs mois brilla dans la littérature et dans le monde artiste. Finot, cet homme d'une incontestable adresse à deviner le talent, dont il devait faire une grande consommation et qui le flairait comme un ogre sans la chair fraîche, cajola Lucien en essayant de l'embaucher dans l'escouade de journalistes qu'il commandait, et Lucien mordit à ses flatteries. Coralie observa le manège de ce consommateur d'esprit et voulut mettre Lucien en garde contre lui. « Ne t'engage pas, mon petit, » dit-elle à son poète. « Attends, ils veulent t'exploiter. Nous causerons de cela ce soir. »« Bah, » lui répondit Lucien, « je me sens assez fort pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils peuvent l'être. » Finot, qui ne s'était sans doute pas brouillé pour les Blancs avec Hector Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin. Coralie et Madame du Val-Noble fraternisèrent, se comblèrent de caresses et de prévenances. Madame du Val-Noble invita Lucien et Coralie à dîner. Hector Merlin, le plus dangereux de tous les journalistes présents à ce dîner, était un petit homme sec, à lèvres pincées, couvant une ambition démesurée, d'une jalousie sans bornes. Heureux de tous les maux qui se faisaient autour de lui, profitant des divisions qu'il fomentait, ayant beaucoup d'esprit, peu de vouloir, mais remplaçant la volonté par l'instinct qui mène les parvenus vers les endroits éclairés par l'or et par le pouvoir. Lucien et lui se déplurent mutuellement. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi. Merlin eut le malheur de parler à Lucien à haute voix comme Lucien pensait tout bas. Au dessert, les liens de la plus touchante amitié semblaient unir ces hommes qui tous se croyaient supérieurs l'un à l'autre. Lucien, le nouveau venu, était l'objet de leur coquetterie. On causait à cœur ouvert. Hector Merlin seul ne riait pas. Lucien lui demanda la raison de sa raison. « Mais je vous vois entrant dans le monde littéraire et journaliste avec des illusions. Vous croyez aux amis. Nous sommes tous amis ou ennemis selon les circonstances. Nous nous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie, et je ne vous aurais pas fait une médiocre confidence. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Pour faire fortune en littérature, blessez toujours tout le monde, même vos amis. Faites pleurer les amours propres. Tout le monde vous caressera. Hector Merlin fut heureux en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. On joua. Lucien perdit tout son argent. Il fut emmené par Coralie, et les délices de l'amour lui firent oublier les terribles émotions du jeu qui, plus tard, devait trouver en lui l'une de ses victimes. Le lendemain, en sortant de chez elle et revenant au quartier latin, il trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait perdu. Cette attention l'attrista d'abord. Il voulut revenir chez l'actrice et lui rendre un don qui l'humiliait. Mais il était déjà rue de la Harpe. Il continua son chemin vers l'hôtel Cluny. Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de Coralie. Il y vit une preuve de cet amour maternel que ces sortes de femmes mêlent à leur passion. Chez elles, la passion comporte tous les sentiments. De pensée en pensée, Lucien finit par trouver une raison d'accepter en se disant « Je l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai jamais ». À moins d'être Diogène, qui ne comprendrait alors les sensations de Lucien en montant l'escalier boueux et puant de son hôtel, en faisant grincer la serrure de sa porte, en revoyant le carreau sale et la piteuse cheminée de sa chambre horrible de misère et de nudité. Il trouva sur sa table le manuscrit de son roman et ce mot de Daniel d'Arthez. « Nos amis sont presque contents de votre œuvre, cher poète. Vous pourrez la présenter avec plus de confiance, disent-ils, à vos amis et à vos ennemis. Nous avons lu votre charmant article sur le panorama dramatique, et vous devez exciter autant d'envie dans la littérature que de regrets chez nous. » Daniel. « Regret ? Que veut-il dire ? » s'écria Lucien, surpris du ton de politesse qui régnait dans ce billet. « Était-il donc un étranger ? » Pour le cénacle, après avoir dévoré les fruits délicieux que lui avait tendus l'Ève des coulisses, il tenait encore plus à l'estime et à l'amitié de ses amis de la rue des Quatre Vents. Il resta pendant quelques instants plongé dans une méditation par laquelle il embrassait son présent dans cette chambre et son avenir dans celle de Coralie. En proie à des hésitations alternativement honorables et dépravantes, il s'assit et se mit à examiner l'état dans lequel ses amis lui rendaient son œuvre. Quel étonnement fut le sien! De chapitre en chapitre, la plume habile et dévouée de ces grands hommes encore inconnus avait changé ses pauvretés en richesses. Un dialogue plein, serré, concis, nerveux, remplaçait ces conversations qu'il comprit alors n'être que des bavardages en les comparant à des discours où respirait l'esprit du temps. Ses portraits, un peu mous de dessin, avaient été vigoureusement accusés et colorés. Tous se rattachaient aux phénomènes curieux de la vie humaine par des observations physiologiques dues sans doute à Bianchon, exprimées avec finesse et qui les faisaient vivre. Ses descriptions verbeuses étaient devenues substantielles et vives. Il avait donné une enfant mal faite et mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe rose, une création ravissante. La nuit le surprit, les yeux en pleurs, atterré de cette grandeur, sentant le prix d'une pareille leçon, admirant ces corrections qui lui en apprenaient plus sur la littérature et sur l'art que ces 4 années de travaux, de lecture, de comparaison et d'études. Le redressement d'un carton mal conçu, un trait magistral sur le vif, en disent toujours plus que les théories et les observations. Quels amis, quel cœur! Suis-je heureux? S'écria-t-il en serrant le manuscrit. Entraîné par l'emportement naturel aux natures poétiques et mobiles, il courut chez Daniel. En montant l'escalier, il se crut cependant moins digne de ses cœurs que rien ne pouvait faire dévier du sentier de l'honneur. Une voix lui disait que, si Daniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas acceptée avec Camusot. Il connaissait aussi la profonde horreur du cénacle pour les journalistes, et il se savait déjà quelque peu journaliste. Il trouva ses amis moins méraux qui venaient de sortir, en proie à un désespoir peint sur toutes les figures. « Qu'avez-vous, mes amis ? » dit Lucien. « Nous venons d'apprendre une horrible catastrophe. Le plus grand esprit de notre époque, notre ami le plus aimé, celui qui pendant 2 ans a été notre lumière, Louis Lambert ?» dit Lucien. « Il est dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir, » dit Bianchon. « Il mourra le corps insensible et la tête dans les cieux, » ajouta solennellement Michel Chrestien. « Il mourra comme il a vécu, » dit d'Arthez. L'amour, jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau, l'a incendié, dit Léon Giraud. « Ou, dit Joseph Bridau, l'a exalté à un point où nous le perdons de vue. « C'est nous qui sommes à plaindre, » dit Fulgence Ridal. « Il se guérira peut-être, » s'écria Lucien. « D'après ce que nous a dit Méraud, la cure est impossible, » répondit Bianchon. « Sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir. « Il existe cependant des agents, » dit d'Arthez. « Oui, » dit Bianchon, « il n'est que cataleptique. Nous pouvons le rendre imbécile. » De pouvoir offrir au génie du mal une tête en remplacement de celle-là, moi je donnerais la mienne, s'écria Michel Chrestien. Et que deviendrait la Fédération européenne? Dit d'Arthez. Ah, c'est vrai, reprit Michel Chrestien, avant d'être un homme on appartient à l'humanité. Je venais ici le cœur plein de remerciements pour vous tous, dit Lucien. Vous avez changé mon billon en louis d'or. Des remerciements? « Pour qui nous prends-tu ? » dit Bianchon. « Le plaisir a été pour nous, » reprit Fulgence. « Eh bien, vous voilà journaliste ? » lui dit Léon Giraud. « Le bruit de votre début est arrivé jusque dans le quartier latin. »« Pas encore, » répondit Lucien. « Ah, tant mieux, » dit Michel Chrestien. « Je vous le disais bien, » reprit d'Arthez. « Lucien est un de ces cœurs qui connaissent le prix d'une conscience pure. » N'est-ce pas un viatique fortifiant que de poser le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se dire « Je n'ai pas jugé les œuvres d'autrui, je n'ai causé d'affliction à personne. Mon esprit, comme un poignard, n'a fouillé l'âme d'aucun innocent. Ma plaisanterie n'a immolé aucun bonheur, elle n'a même pas troublé la sottise heureuse, elle n'a pas injustement fatigué le génie. J'ai dédaigné les faciles triomphes de l'épigramme. Enfin, je n'ai jamais menti à mes convictions. Mais, dit Lucien, on peut, je crois, être ainsi tout en travaillant à un journal. Si je n'avais décidément que ce moyen d'exister, il faudrait bien y venir. Oh, oh, oh ! Dit Fulgence en montant d'un ton à chaque exclamation. Nous capitulons. Il sera journaliste, dit gravement Léon Giraud. Ah, Lucien, si tu voulais l'être avec nous, qui allons publier un journal où jamais ni la vérité ni la justice ne seront outragées, où nous répandrons les doctrines utiles à l'humanité, peut-être... « Vous n'aurez pas un abonné ?» répliqua machiavéliquement Lucien en interrompant Léon. « Ils en auront 500 qui en vaudront 500 000, » répondit Michel Chrestien. « Il vous faudra bien des capitaux, » reprit Lucien. « Non, » dit d'Arthez, « mais du dévouement. » Tu sens comme une vraie boutique de parfumeur, dit Michel Chrestien en flairant par un geste comique la tête de Lucien. On t'a vu dans une voiture supérieurement astiquée, traînée par des chevaux de dandy, avec une maîtresse de prince, Coralie. Eh bien, dit Lucien, y a-t-il du mal à cela? Tu dis cela comme s'il y en avait, lui cria Bianchon. J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait soutenue dans la vie. Mais, Daniel, est-ce que l'amour n'est pas partout semblable à lui-même? Dit le poète. Ah, dit le républicain, ici je suis aristocrate. je ne pourrais pas aimer une femme qu'un acteur baise sur la joue en face du public, une femme tutoyée dans les coulisses qui s'abaisse devant un parterre et lui sourit, qui danse des pas en relevant ses jupes et qui se met en homme pour montrer ce que je veux être seul à voir. Ou, si j'aimais une pareille femme, elle quitterait le théâtre et je la purifierais par mon amour. Et si elle ne pouvait pas quitter le théâtre, je mourrais de chagrin, de jalousie, de mille maux. On ne peut pas arracher son amour de son cœur comme on arrache une dent. » Lucien devint sombre et pensif. « Quand ils apprendront que je subis Camusot, ils me mépriseront, » se disait-il. « Tiens, » lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, « tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. » Il prit son chapeau et sortit. « Il est dur, Michel Chrestien, » dit le poète. « Dur et salutaire, comme le davier du dentiste, » dit Bianchon. « Michel voit ton avenir et peut-être, en ce moment, pleure-t-il sur toi dans la rue. » D'Arthez fut doux et consolant. Il essaya de relever Lucien. Au bout d'une heure, le poète quitta le cénacle, maltraité par sa conscience qui lui criait « Tu seras journaliste !» comme la sorcière crie à Macbeth « Tu seras roi !» Dans la rue, il regarda les croisées du patient d'Arthez, éclairées par une faible lumière, et revint chez lui le cœur attristé, l'âme inquiète. Une sorte de pressentiment lui disait qu'il avait été serré sur le cœur de ses vrais amis pour la dernière fois. En entrant dans la rue de Cluny, par la place de la Sorbonne, il reconnut l'équipage de Coralie. Pour venir voir son poète un moment, pour lui dire un simple bonsoir, l'actrice avait franchi l'espace du boulevard du Temple à la Sorbonne. Lucien trouva sa maîtresse tout en larmes à l'aspect de sa mansarde, et elle voulait être misérable comme son amant. Elle pleurait en rangeant les chemises, les gants, les cravates et les mouchoirs dans l'affreuse commode de l'hôtel. Ce désespoir était si vrai, si grand, il exprimait tant d'amour, que Lucien, à qui l'on avait reproché d'avoir une actrice, vit dans Coralie une sainte bien près d'endosser le cilice de la misère. Pour venir, cette adorable créature avait pris le prétexte d'avertir son ami que la société Camusot, Coralie et Lucien rendraient à la société Matifat, Florine et Lousteau leur souper, et de demander à Lucien s'il avait quelque invitation à faire qui lui fût utile. Lucien lui répondit qu'il en causerait avec Lousteau. L'actrice, après quelques moments, se sauva en cachant à Lucien que Camusot l'attendait en bas. Fin de la 24e section.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.